incontri questa sera, come titolo, Crisi dell'umanizzazione, malessere della democrazia, chi ne dice la psicanalisi, il nostro ospite per discutere Jean-Pierre Lebrun. Io vorrei innanzitutto ringraziare Lebrun di essere qui con noi. Tengo a precisare, a sottolineare che non è la prima volta che ha accettato gentilmente, se ci sono maggiorato, è già la terza volta che vieni in Casa della Cultura. Gli hanno anche chiesto a volte di tenere una lezione, una scuola di cultura politica. L'unico psicanalista che mi ha chiesto di tenere una scuola di cultura politica, già questo mi dà un po' la chiave del personaggio di cui stiamo discutendo. In effetti, si tratta di un psicanalista che dialoga intensamente con altre discipline e aggiungo anche che è un interprete davvero brillante della contemporaneità, nel senso che usa il suo sapere psicanalitico come strumento per portare in profondità elementi di conoscenza e di studio delle trasformazioni della nostra società. Vedete, quindi è un interlocutore di grande interesse e per questo penso che sia importante che sia proposto questa sera una discussione da parte dell'esponente della Lacaniana a Milano e del centro milanese di psicanalisi Cesare Cusani. Sottolineo il fatto di questa iniziativa promossa assieme da Lacaniani e Freudiani, non è una cosa consueta e normale neanche questa, anche questa merita una sottolineatura. Ma detto questo non aggiungo altro perché poi a interloquire con Jean-Pierre Lebrun saranno Marisa Fiumanò e Giuseppe Pellizzari. Passo a loro la parola. Prego, Marisa.
Sì, allora presento brevemente Jean-Pierre Lebrun, ma anche se non ha bisogno di presentazioni, Giuseppe Pellizzari, che ringrazio di aver accettato di dialogare con lui, che è un analista didatta del Centro Cesare Musatti di Milano, quindi è un analista freudiano, e sono felice che ci sia questo scambio appunto tra un analista lacaniano e un analista freudiano qui in Casa della Cultura. Jean-Pierre Lebrun è psichiatra, psicanalista, lavora tra Namur e Bruxelles e viene appunto, come ha ricordato Ferruccio Capelli, è già venuto in Casa della Cultura in anni passati, la prima volta credo addirittura nel 98, qualcosa di simile, o nel 2000. Con Testart, a quell'epoca si parlava della questione della protezione medicalmente assistita, e poi altre due volte, una volta in occasione della scuola di cultura politica, e un'altra volta per un ciclo organizzato appunto dalla nostra associazione Nome e Nomi del Padre. E quindi siamo felici di riaverlo qui con noi. Personalmente io gli devo molto perché i suoi libri hanno sempre orientato la mia ricerca e hanno fatto anche un po' la base a quelli che io stessa ho scritto. È un saggista estremamente prolifico e anche molto originale e che ha questa capacità di far dialogare la psicanalisi e soprattutto gli psicanalisti con le altre scienze, e quindi con le scienze sociali, con le scienze umanistiche e anche con teologi, ad esempio, no? Oltre che con altri psicanalisti. Riguardando un po' i suoi libri, che sono tanti, perché lui ne ha scritti veramente un'enormità, ne ha scritti almeno 10 dal 96 in avanti, più quelli che sono delle raccolte che lui ha curato, sono sempre dei libri il cui oggetto è la mutazione nella nostra contemporaneità, nel nostro sociale e gli effetti di questa mutazione sia sui singoli che sulla collettività. E quindi mi suggerisce evidentemente come leggere questa mutazione, quali effetti ha questa mutazione sui singoli e sul sociale. Il primo libro che lui ha scritto è, voglio ricordarlo perché è un libro letterario, Don e si chiama Rien n'est plus secret qu'une existence féminine, che è del 1987, niente più segreto di un'esistenza femminile. Che è la lettera di Monique al marito Alexis, che è un personaggio di Marguerite Yourcenar, prima che lui la lasci per seguire le sue, la sua tendenza omosessuale. Quindi, e poi alterna appunto dei saggi molto poderosi con dei libretti molto brevi che sono la sintesi, la puntualizzazione di alcune questioni e soprattutto dei dialoghi, dei libri scritti in forma dialogica con appunto esponenti di altre discipline. Attualmente, e così chiudo questa breve presentazione, attualmente Lebrun si sta occupando della funzione delle madri oggi, cioè del ruolo che hanno le madri in una società in cui il posto paterno, la funzione paterna, il posto paterno, devo fare attenzione perché lui è molto rigoroso nello scegliere le definizioni, quindi il posto paterno, quindi non del padre, ma del posto paterno, come dire, è diventato più difficile da occupare e anche molto più fragile. Ed è questo poi il tema che lui svilupperà domani all'interno della nostra associazione domani mattina. Stasera invece gli abbiamo chiesto di parlare della crisi della democrazia, anzi dell'umanizzazione e del malessere nella democrazia. Quindi vi passo la parola.
Bien, merci beaucoup à vous, ici à la Maison de la Culture et aussi à Marisa et M. Pellizzari d'avoir voulu faire cet échange et discussion. Je vais essayer de faire très court, une demi-heure, pas plus, pour vous rappeler trois, quatre choses auxquelles je tiens, ce qui permettra, j'espère et je suppose, d'ensuite discuter dans le débat qui va suivre. Alors, j'étais venu ici il y a 3 ans, je crois maintenant, parler en son temps de ce que j'appelais une crise de l'humanisation, ce que je ne renie absolument pas, au contraire, je pense que nous sommes de plus en plus dans cette crise. Et par crise de l'humanisation, je voulais dire quelque chose de relativement simple, à savoir que chaque être humain, quand il arrive au monde, est contraint de s'approprier, en quelque sorte, ce qui régule le fait d'être humain. Et ce qui nous caractérise, c'est la parole, c'est le langage, c'est cette capacité symbolique que nous sommes les seuls animaux à posséder, et qui fait que nous nous retrouvons d'ailleurs ici ce soir ensemble. Si nous ne parlions pas, nous n'aurions pas ce privilège. Vous ne voyez pas les fourmis se réunir en concile pour discuter. Ça nous est donc propre, cet échange de paroles. Mais pour que cet échange de paroles puisse avoir un sens, il faut que chacun s'approprie ce que parler implique et veut dire. Et c'est en ce sens-là que j'aime beaucoup d'ailleurs cette formule d'un poète qui s'appelle Valère Novarina et qui dit que nous sommes les seuls animaux à avoir un trou dedans. Non, avoir un trou à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que la parole, comme telle, véhicule avec elle quelque chose qui est un trou. À savoir que vous ne parlez, vous parlez uniquement parce que vous êtes capable de dialectiser la présence et l'absence. Et c'est donc cette absence, ce trou qui est au cœur même de cette parole qui se présente par ailleurs comme quelque chose de positif, de présent bien sûr, mais qui toujours véhicule avec elle le fait qu'à travers la parole, il y a quelque chose d'autre, de ce trou justement, qui se précise. Alors pourquoi crise de l'humanisation? Eh bien je vais le reprendre en 3 points si vous voulez. Je vais d'abord essayer de vous dire pourquoi je pense qu'aujourd'hui il y a crise de l'humanisation. J'essaierai ensuite de décrire quelques points de pourquoi du coup je pense que notre démocratie est malade, est en tout cas en grande difficulté. Et mon 3e point, sera que peut la psychanalyse, ou plutôt le psychanalyste, par rapport à cela. Crise de l'humanisation, simplement parce que nous avons... Alors le mot crise, n'entendez pas d'office comme une catastrophe. On parle aussi de la crise de l'adolescence, c'est-à-dire d'un moment de traversée très difficile. Ce n'est pas d'office la catastrophe prévue. C'est pas d'office la crise cardiaque. Bon. Mais c'est quand même un moment de traversée difficile. Pourquoi sommes-nous dans ce moment de traversée difficile? Je crois que c'est parce que nous sommes passés, nous avons changé de monde. Nous sommes passés d'un monde à un autre monde. Ou nous sommes en train de passer d'un monde à un autre monde. Et du coup, la façon dont s'est organisée l'humanisation dans l'ancien monde est d'une certaine façon périmée. Je ne dis pas que l'humanisation est périmée, évidemment, mais la façon dont on a fait, oui. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Mais ce qui me fait dire ça, c'est très simple, et je vais d'ailleurs me référer à Freud pour autant, puisque la société de Freud se tourne autour de Vienne 1900. C'est une société, même si elle est déjà en difficulté, organisée par le patriarcat. Et l'ensemble de l'œuvre de Freud va montrer précisément que le père, c'est celui qui vient apporter la castration, c'est-à-dire comme ça, apporter la limite à ce lien entre mère et enfant. Et d'ailleurs, tous les psychanalystes du monde, ce n'est pas grand-chose sur lequel nous sommes tous d'accord, mais il me semble qu'il y a un point sur lequel nous sommes tous d'accord, c'est qu'il faut un travail de séparation entre la mère et l'enfant pour tout enfant. Eh bien, le moteur, l'agent, le responsable, pour le dire comme ça, du temps de Freud a été identifié comme étant le père, étant la fonction paternelle. C'est à ça que ça servait. Ça servait d'une part à venir donc inscrire cette limite, c'est-à-dire ce trou, pour aller vite, je résume bien sûr, on ne voudrait pas de faire des rangs raccourcis, mais pour inscrire ce trou dans l'appareil psychique d'un chacun, de telle sorte que le sujet puisse soutenir sa parole à partir de ce propre trou qu'il habite. Eh bien, ça c'est un des grandes avancées de Freud. La seconde étant que il organise du coup la façon différente de faire des sexes, puisque chacun des deux, homme ou femme, ne se trouve pas tout à fait à la même place par rapport à ce trou, mais néanmoins, il donne là des lignes par lesquelles habituellement on s'organise dans l'existence pour être comme homme ou comme femme dans une société organisée par le patriarcat, c'est-à-dire où la fonction du père vient entièrement mettre en place ce que est nécessaire pour que parler soit possible pour chacun des êtres humains qui arrivent dans le monde. Eh bien, ce monde-là, il est fini. Il est périmé. Récemment, d'ailleurs, un psychanalyste célèbre, Mustapha Sarsour, a écrit un de ses livres qui s'appelait « Fin de la civilisation oedipienne ». Ça veut dire que ce monde-là, il est terminé. Et c'est d'ailleurs très intéressant de nous demander, mais alors, dans quel monde sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, précisément, nous avons hautement remis en cause, pour des raisons que tout le monde comprend très bien, la pertinence de ce patriarcat qui organisait l'entièreté du monde, puisque de ce fait-là, les femmes d'un côté, mais aussi les enfants, étaient entièrement soumis à l'autorité de ce père, qui, il faut bien le reconnaître, dans pas mal de cas, se retrouvait davantage à organiser et à profiter de la place qu'il occupait, plutôt que de simplement veiller à transmettre ce qui était nécessaire à l'humanisation. Il y avait là une sorte d'ambiguïté qui a souvent fonctionné, puisqu'elle est à la base de plein d'excès, dont je ne vais pas développer ici, mais ils ont existé. Et d'une manière plus générale, c'est ce qui bloquait, entre autres, l'accès des femmes à la place de citoyennes à part entière. Voilà donc que dans cet endroit, ce monde-là, la chose a basculé et il n'y a pas de... Il n'y a pas un moment très précis, bien qu'on puisse en repérer, mais je pense que quand même à entendre qu'il y a quelque chose qu'aujourd'hui nous devons constater, c'est que ce patriarcat a fini sa période, en quelque sorte. Et d'ailleurs, Lacan, qui est l'autre analyste auquel je me réfère, évidemment, avait bien repéré dans un premier temps ce qu'il en était de l'importance du père, puisque c'est un élève. Dans le contexte de la psychanalyse, c'est lui qui a le mieux mis en évidence cette fonction paternelle, justement. Mais dans un second temps de son œuvre, il a montré qu'au fond, il a inventé quelque chose qui n'était pas prévu dans l'œuvre freudienne, que nous appelons l'objet petit a, un drôle de terme pour l'expliquer, mais peu importe, mais qui vient simplement dire ceci, c'est que, au fond, toute relation à un objet, quel qu'il soit pour un être humain, est toujours marquée par le fait de ce que fondamentalement, d'abord, l'objet manquera toujours, d'une certaine façon. Il est donc bien plus marqué par cette perte qui est profondément inscrite, renvoie au trou du langage que je vous ai évoqué tout à l'heure. Et du coup, l'intérêt de Lacan, c'est d'avoir montré que cet objet, en fait, plutôt que de penser qu'habituellement nous courons après l'objet, eh bien, il vient du coup montrer que cet objet, qui est d'abord une perte, c'est d'abord un trou, un manque, plus même une perte qu'un manque, parce que pour qu'il soit manque, il faut déjà que ce soit intériorisé psychiquement. Au départ, c'est une perte, eh bien, c'est cette perte qui est cause du désir humain. Parce que tout le désir humain, l'organisation du désir humain, est toujours d'être manquant. Et donc, il ne peut y avoir de désir que parce qu'il y a au départ cette perte inscrite. Si vous voulez, ceci a une grande conséquence, mine de rien, puisque dans le monde ancien, on peut dire que c'est le père qui est responsable de cette limite imposée à l'humanisation et par l'humanisation. Alors qu'avec Lacan, on peut dire que ce n'est pas le père, mais que c'est le langage lui-même, le fait que nous soyons des êtres parlants. Vous voyez la subtile évolution, mais qui permet du coup de ne pas être trop accroché à ce que le monde ancien faisait passer, à savoir qu'il fallait ce père pour qu'il y ait cette limite posée à l'enfant, à partir duquel il allait se situer. N'entendez pas trop vite qu'il n'en faut plus du tout, mais on voit bien qu'il y a quelque chose dont on s'est quand même un petit peu dégagé, à partir de l'enseignement de Lacan, que l'importance du père, si vous voulez, s'en trouve en tout cas relativisée. Il y a néanmoins toujours nécessité, et ça c'est le propre de l'être humain, comme vous savez, il n'y a pas un seul être humain qui arrive à parler, si dans les premiers moments de son existence, il n'entend pas parler autour de lui. Donc, il est toujours tributaire quand même des autres et de ce qui se passe dans le fait que les autres avant lui ont déjà intégré ce que lui va devoir intégrer. Donc, ne croyons pas que nous sommes tout à coup disent que le langage comme ça suffirait, parce qu'il n'y a personne qui a jamais vu le langage. Du coup, on ne voyait jamais que d'autres êtres parlants. Mais vous voyez quand même bien le déplacement qui a eu lieu, déplacement extrêmement important, puisque je viens de vous dire que le monde d'hier était organisé autour de cette fonction paternelle, qui en même temps disait ce qu'il en était de chacun des sexes, et aujourd'hui nous sommes dans un monde qui ne se trouve plus du tout organisé par cette figure paternelle, pas du tout par une sorte de méprise, au contraire, parce qu'un vœu s'est avéré extrêmement déterminant, celui d'aller plus loin dans la mise en place de la modernité et de la démocratie, qui supposait justement que hommes et femmes se retrouvent à part entière dans la citoyenneté, et en même temps que les enfants ne soit plus tributaire de la même façon, en tout cas du temps des Romains, de ce qu'il était véritablement sous la dépendance de celui qui était leur père. On voit donc bien qu'il y a un projet et un progrès d'une certaine manière dans la démocratie que de vouloir diminuer cette prégnance donnée au père. Et je n'ai pas à ajouter qu'évidemment, dans pas mal de cas, il s'était avéré que cette puissance accordée au père servait davantage à sa propre jouissance à lui qu'au fait de passer ou d'assurer la transmission dans le monde tel qu'elle était organisée du temps du patriarcat. Il n'empêche que ceci introduit quand même un grand trouble. Un grand trouble parce que beaucoup de gens vivent la chose comme n'ayant plus l'appui de ce modèle d'hier pour transmettre ce qui est nécessaire à prendre. Donc, je ne veux pas survaloriser la valeur de ce père, je ne veux pas non plus diminuer l'effet douloureux que certains ressentent de ne plus avoir à disposition un père qui fonctionne de la même façon que celle d'hier. Il n'empêche que nous avons dans nos outils conceptuels, si vous voulez, comme psychanalystes, de quoi ne pas nous laisser affoler par la fin du père. Et au contraire, prendre en compte le vœu de démocratie qui va jusqu'à désormais programmer le déclin du père. Mais il nous faut quand même reconnaître que pour pas mal de gens, ça se trouve, c'est un grand trouble qui vient du coup même, et on peut en parler peut-être tout à l'heure, mais qui sans aucun doute n'est pas sans être, par exemple, à la base de certains retours à des fondamentalismes religieux extrêmement puissants, tellement le modèle qu'on est en train de promouvoir est incertain et vacillant. C'est plus très bien comment, à quoi se réfère. Donc, on voit bien que ça peut être la voie ouverte, du coup, pour une sorte de retour, pour revenir à des choses extrêmement claires, extrêmement déterminées, extrêmement... N'empêche que, un autre point, c'est que du coup, là où jusqu'à présent nous avions des repères relativement clairs pour ce qui était des différences de sexe, telles qu'elles étaient données d'ailleurs par Freud, eh bien aujourd'hui nous nous trouvons avec des sujets qui au fond se trouvent de plus en plus prêts à dire que chacun va faire comme il le croit, comme bon ça lui semble. Chacun va penser sa propre sexualité comme son symptôme. Il n'y aura donc plus de valeur à venir dire qu'est-ce que c'est qu'être homme et qu'est-ce que c'est qu'être femme. Vous avez aujourd'hui une progression de plus en plus grande, de toute une série de façons différentes de soutenir sa sexualité, et tout ceci, comme vous savez, n'est pas sans effet. Mais on se trouve là dans une sorte de contexte où il n'y a plus justement quelque chose qui vient unifier et dire ce à quoi nous répondons tous, mais nous sommes désormais tous au un par un. Et évidemment, ça m'amène au deuxième point. Pourquoi la démocratie est malade? Eh bien oui, parce que précisément, elle est en difficulté, étant donné qu'elle a perdu, qu'elle a renoncé, et de nouveau, n'entendez pas cela comme négatif, entendez cela comme un progrès qu'elle se promeut, qu'elle veut promouvoir. Mais néanmoins, il n'est pas certain qu'elle soit à la hauteur de ce programme. Mais ce qu'elle souhaite, la démocratie, qui coïncide avec la modernité, c'est en finir avec un mode religieux d'organisation du monde. Autrement dit, un mode où le père avait cette place centrale du sommet de la pyramide. Elle veut en finir avec ça. Elle veut donc, du coup, finir avec quelque chose qui serait prévalent, qui serait transcendant, indépendamment que ce soit même religieux ou pas. Mais elle est prise dans le même mouvement de ne plus se compter qu'au un par un. Et plus elle promeut en toute, je dirais, logique et légitimité une sorte de promotion de la singularité, plus elle désamorce ce qui fait lien collectif. Et elle se trouve donc en difficulté d'avoir perdu une modalité qui hier était organisée sur le fonctionnement religieux, mais de ne pas avoir à sa ressource, de quoi faire un lien social qui ferait de tous ces un pris au un par un quelque chose de collectif. Voire pire encore, à chaque fois qu'aujourd'hui vous sollicitez quelque chose d'une autorité, vous pouvez tout de suite percevoir qu'il va y avoir un mouvement de résistance, d'opposition. On va être embarrassé. Parce qu'au fond, est-ce que ce n'est pas rien d'autre que de revenir au modèle d'hier que nous avons voulu quitter, justement? Et donc, s'insinue petit à petit dans ce modalité de lien social horizontal fait au un par un, une déliquescence de plus en plus opérante pour venir rien faire d'autre que de détruire tout ce qui fait collectif. Puisque le collectif suppose toujours la prévalence sur l'individu. Et là, tout à coup, en valorisant l'un par un, d'une certaine manière, nous devons, dans toute logique, dévaloriser la notion du lien collectif. Pas dans ce qu'on attend, évidemment, comme ça, intellectuellement, mais dans les faits, puisque à chaque fois que vous auriez, au nom de votre un par un, et au nom quand même de ce que c'est collectif, à venir dire quelque chose à ce un et un autre un, eh bien, vous pouvez être entendu comme celui qui veut restaurer le modèle pyramidal d'hier, dont on a voulu, et précisément, se départir. Et donc, vous voyez l'embarras dans lequel on est pris. Alors, vous voyez bien comment, du coup, on peut donc très bien comprendre comment le problème aujourd'hui de la démocratie, c'est d'arriver à refaire un lien social qui est la force du modèle religieux d'hier, qui avait le grand avantage de dire pour tout le monde ce qui valait, au risque d'ailleurs d'en éliminer certains, ou au risque de ne pas pouvoir intégrer tout le monde, mais en tout cas, il y avait là une sorte de ciment qui était garanti. Aujourd'hui, nous sommes en difficulté à la fois pour tolérer, pour supporter que le collectif vienne faire prévalence sur le un par un, mais aussi bien pour toute hiérarchie, toute différence, toute autorité, toute chose qui vient du coup rappeler la figure du père dont on a voulu se départir. Il me semble, en plus, que si je ne me trompe pas, la gauche, en général, a même pris cela comme cible, à savoir qu'elle a pensé que la cause des inégalités était justement ces disparités, et que donc il fallait à tout prix arriver à venir les supprimer. Mais en les supprimant, ce qui est assez paradoxal, elle ne s'est pas rendue compte de quelque chose, à mon avis, parce qu'elle n'a pas fait la distinction entre ce que j'appellerais personnellement le père du principe paternel et le père de comment il était hier. Qu'est-ce que c'est que cette distinction que je veux introduire? Et je veux introduire que le père d'hier, tel que je vous en ai parlé, est évidemment un personnage, une personne qui, alors qu'il aurait dû être celui qui transmet la loi sans auteur, qui est la nôtre, celle de notre humanité, à savoir de consentir à tout ce qu'il exige le fait d'être parlant, il est souvent devenu celui qui voulait mettre la main sur les choses pour pouvoir garder le pouvoir sur ses affaires. Et dans ce cas-là, évidemment, il organisait une sorte de dérapage de cette dimension de la loi sans auteur. Et cette loi sans auteur, c'est ce que j'appelle le principe paternel, qui n'a rien à voir avec ce père que je viens de vous évoquer, qui peut être excessivement jouisseur ou abuseur, mais qui a à voir précisément avec ce que le modèle d'hier utilisait du père pour transmettre ce qu'exige l'humanisation. Le principe paternel, ce n'est donc rien d'autre que le principe de la culture, le principe langagier, mais dont je vous rappelle que pendant plusieurs dizaines de siècles, il a été ce qui a permis, ce qui a légitimé la transmission de ce qui est exigé pour l'humanisation. Et aujourd'hui, ça n'est plus à disposition. Dans un vœu tout à fait légitime de faire avancer la démocratie, mais si vous ne faites pas la distinction que vous maintenez fortement entre le père, celui qui exerce, et le principe paternel, qui est aussi bien le principe du langage que le principe de la culture, eh bien vous arriverez du coup à ne plus savoir ce que vous essayez de contrer. Et dans ce cas-là, évidemment, là où la droite peut s'être accusée de vouloir à tout prix être conservatrice et donc voire même de soutenir le modèle paternel d'hier, la gauche se voit presque en obligation de venir contrer, sans le savoir, puisqu'elle fait cette confusion, en tout cas je m'autorise à le penser, sans le savoir, elle vient du coup contrer le principe même de l'humanisation. Elle ne s'est du coup pas rendue compte, et là c'est peut-être l'astuce ou la violence de ce qui se passe, c'est qu'en faisant cette confusion, elle ne s'est pas rendue compte que paradoxalement, elle allait dans le sens de ce qu'exigeait le discours du capitalisme. Elle allait dans ce sens-là, puisque lui, il ne demande pas mieux que de faire en sorte que tous les discours se valent, de telle sorte qu'il n'y a plus rien qui puisse faire arrêt à ce modalité de fonctionnement où la seule chose qui compte, c'est que ça puisse s'organiser, ça puisse s'échanger, ça puisse entrer dans un commerce qui du coup ne vient plus du tout réguler les choses autrement que par l'autorégulation spontanée. Mais attention, autorégulation spontanée qui va aller jusqu'à rendre tout achetable, de telle sorte que ça puisse tout puisse entrer dans le jeu du commerce en question. Et donc vous voyez bien comment, mine de rien, le discours du capitalisme profite extrêmement bien, ou en tout cas a su très bien profiter de cette ambiguïté pour parvenir à mettre la main, je dirais, sur une série de revendications légitimes, de d'espoir, profitant de plus de ce qu'elle n'a plus, comme vous le savez, d'adversaires actuellement présents. Et bien du coup, elle se trouve, mine de rien, c'est venu donner de l'appui au système du discours néolibéral et finit par rendre toute opposition à ce discours quasi impossible, voire en tout cas quelque chose qui n'a plus d'intérêt d'exister, puisque ça s'avère de plus en plus dans ce sens-là que l'on doit aller. Troisième point, que peut la psychanalyse par rapport à ça? Pour vous rappeler que je vous ai dit tout à l'heure qu'avec le travail de Lacan, nous allons un peu plus loin que la question du père. Nous avons repéré que c'est dans le fait même de la parole que l'objet est frappé de perte, que c'est même cet objet-là qui nous organise tous. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui peut nous faire dire, qui peut nous faire indiquer que précisément la cause du désir, si elle est dans cet objet perdu, cela vient bien indiquer que là où le discours capitaliste vous donne désormais partout, tant que faire se peut, la présence de l'objet possible, le discours de l'analyste vient plutôt contrecarrer cela en disant que même là où il vous est présenté comme possible, en fait, il faudra que vous vous confrontiez au fait de son impossibilité et que c'est même une perte qui caractérise même l'objet auquel vous avez accès. Autrement dit, ce que soutient le psychanalyste est anti-capitaliste de structure. Et il se trouve du coup, aujourd'hui, à devoir s'occuper de pas mal de ce qu'on pourrait appeler des éclopés du discours du capitalisme. Vous savez que Lacan avait donné comme définition au discours du capitalisme, c'est un discours qui faisait une forclusion de la castration. C'est-à-dire qui justement abolissait cette perte qui est réelle, que je vous ai indiqué comme frappant notre condition humaine du fait d'être parlant. Vous pouvez en prendre un très simple exemple, c'est par exemple le culte de l'immédiat. Le culte de l'immédiat, s'arrange pour abroger la temporalité. Et en laissant croire que vous pouvez mettre la main sur les choses, évidemment, ça fait disparaître cette caractéristique de notre humanité que je vous ai indiquée tout à l'heure, que du fait de ce que nous sommes des êtres parlants, c'est un trou que vous allez trouver à la place de cette parole possible. Il faudra en tout cas que consentir à ce que ce trou l'habite. L'avancée aujourd'hui du discours du capitalisme est quelque chose, à mon avis, qu'il faut repérer. Je vous donne une lecture très simple, sans aucun doute, je m'en excuse, et peut-être bien d'ailleurs qu'on pourra en parler et échanger à ce propos, mais du temps de Germinal, c'est-à-dire du temps de la montée industrielle. Il est évident que le discours du capitalisme n'avait pas de prétention de changer la tête des gens. Il suffisait que le profit continue. Point. Aujourd'hui, en rapport avec ce que la démocratie propose, à savoir que nous aurions de plus en plus à tenir compte de la singularité d'un chacun, c'est comme, à mon avis, s'il profitait de ce que cette organisation-là, à savoir de nous compter un par un, avait dissous, en quelque sorte, la force d'unité du système pour nous rendre de plus en plus dépendants, au contraire, de cet objet qui aurait escamoté la part de trou qui l'habite. Du coup, de ce fait-là, c'est ce qui vaut à l'abolition du principe paternel, justement, et nous nous retrouvons de plus en plus souvent des sujets, bien que nous ne voulions pas ça, mais nous-mêmes, entièrement addictés, c'est-à-dire accrochés, absorbés, scotchés à un objet que, même si nous avons encore un peu de recul, il n'est quand même de plus en plus important de réaliser que nous sommes dans cet esprit-là. Pendant qu'on se bat donc aujourd'hui pour plus d'égalité à l'école, par exemple, pour plus de bonheur dans l'entreprise, parce que vous avez ce souci en Belgique, le bonheur dans l'entreprise, c'est devenu très important. Pendant qu'on se donne ces débats-là, ces discussions-là, en quelque sorte, on noie le poisson, voire même on éponge les forces qui pourraient venir essayer de s'opposer à l'envahissement de ce discours du capitalisme. Le véritable enjeu donc nous échappe, et le véritable enjeu, c'est garder la possibilité de pouvoir faire rupture avec ce type de fonctionnement par la pensée, par l'élaboration psychique. Et ça, ce n'est pas tout à fait ce que l'on promeut aujourd'hui. Je termine par un mot, qui est un mot que j'ai trouvé dans Lacan il y a longtemps que je fréquente quand même son œuvre, et je ne m'étais jamais rendu compte de ce mot. C'est que quand on lui avait demandé un jour à quoi devait servir les psychanalystes par rapport au discours du social, il avait répondu « compensatoire ». C'est-à-dire, justement, venir faire entendre, d'abord par le savoir que la psychanalyse produit, mais aussi par l'acte du psychanalyste, que ce soit dans la cure ou que ce soit dans la pratique qu'il a avec d'autres, pour venir faire entendre l'illusion, le leurre complet dans lequel nous sommes entraînés aujourd'hui avec un discours, et comment même ce leurre peut s'entretenir du fait de pouvoir mettre à mal le modèle de l'humanisation d'hier dont nous ne voulons plus, à très juste titre, j'insiste bien la façon dont je le dis, mais qui du coup laisse la confusion s'installer entre ce principe d'humanisation que nous avons à garder et le principe du père qui n'a plus à fonctionner tel qu'il fonctionnait comme du temps du patriarcat. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.
Premetto che sono praticamente d'accordo con quasi tutto quello che la anche quello che lui non ha detto adesso. Quindi non intendo intervenire in termini, diciamo, polemici o dialetti, ma cercando di integrare il discorso che lui fa, aggiungendovi qualcosa. A proposito della crisi della civiltà edipica che è stata citata adesso, una cosa che mi ha colpito, certo non solamente me, nella lettura di Freud, il tramonto del complesso edipico, sono dei termini. Freud usa il termine Untergang per indicare il tramonto del complesso edipico. Untergang è un termine particolarmente forte, infatti pare che Ernest Jones l'avesse consigliato di cambiarlo. E, perché non è tanto un'immagine romantica, il tramonto, ma è un'immagine abbastanza drammatica, vuol dire anche crollo, vuol dire anche rovina. Tant'è vero che Emilio Hélès, che era di 3 anni prima, 1922, dove per la prima volta parla di tramonto del complesso edipico, usa un termine ancora più forte che è Zertrümmung, che vuol dire sfacelo, frantumazione, distruzione. Quindi è abbastanza singolare che questo contrasta con l'idea che il complesso edipico finisca, Freud dice, come cadono i denti di latte. Ora, i denti di latte cadono in maniera abbastanza dolce, non è un fatto drammatico. Invece questi termini, sia Untergang che Zertrümmung soprattutto, indicano qualcosa di catastrofico, come se lui dicesse la catastrofe del complesso edipico. Allora, come mai questo? Sì, certo, c'erano state le guerre, la prima guerra mondiale, c'erano stati per la prima volta il mondo aveva vissuto una situazione di distruttività generalizzata. Però si potrebbe pensare anche ad una cosa del genere, cioè Lacan parla di evaporazione del padre, evaporazione del nome del padre. Forse possiamo pensare che la psicanalisi sia figlia dell'evaporazione del nome del padre. Non è semplicemente qualcosa che rileva quello che sta accadendo, ma lei stessa fa parte di questo processo. Perché? Prima si è parlato di patriarcato. Certamente tutta la storia, quasi tutta la storia dell'umanità, potremmo dire, fino all'epoca moderna, ha avuto questa struttura. Possiamo dire una struttura che di tipo verticale che si basava sulla trascendenza. Cioè tutta la vita degli esseri umani si appoggiava, era ritmata su un orizzonte simbolico, su un canone simbolico che la regolava, con la quale si poteva essere d'accordo, con la quale si poteva contrastare anche a rischio della vita. Sappiamo, siamo al tribunale dell'Inquisizione, tutte le persecuzioni, le guerre di religione che ci sono state. Però di fatto rappresentava la terra su cui poggiare i piedi. Ora, questa situazione aveva una conseguenza, cioè la prevalenza, come si diceva prima, del collettivo sull'individuo. Con l'epoca moderna, la nascita della democrazia, lo sviluppo tecnologico, l'emancipazione femminile, ma soprattutto, cioè l'elemento fondamentale è la nascita della democrazia, la fine del potere assoluto, che cosa succede? Succede che questo sostrato simbolico viene meno. C'è la crisi del patriarcato, viene meno questo canone simbolico su cui la vita degli uomini si appoggiava. Allora, è proprio per questo che c'è una prevalenza dell'individuo sulla collettività. I drammi, i conflitti che prima erano vissuti collettivamente nel mito, diventano fatti individuali. L'individuo diventa il protagonista della propria vita, senza questo quadro che lo sorregge. Per questo nasce la psicanalisi. Non poteva nascere prima. Se pensiamo, non so, che so io, a Dante Alighieri, Dante Alighieri non ci parla della sua infanzia, non ci dice com'era la sua mamma, che traumi infantili ha avuto. Non gliene importava nulla, così come a tutti gli esseri umani. Non esisteva la biografia individuale, esisteva il mito, esisteva l'itinerario in Dio, esistevano le guerre, esistevano gli eroi, non c'era il mondo interno. Il conosci te stesso di Socrate non è psicologico, è ontologico. È con la nascita dell'epoca moderna che il conosci te stesso diventa psicologico. Si passa dall'Odissea all'Ulisse di Joyce. L'Odissea diventa le 24 ore di un individuo, tutti i pensieri che gli passano per la mente. È l'epopea del suo mondo interno. Quindi siamo in una situazione completamente diversa. Lì nasce la psicanalisi. Perché prima era impossibile, non c'erano le condizioni perché potesse nascere. Proprio perché, usando questo linguaggio lacaniano, quando vigeva il nome del padre, la psicanalisi era impossibile. La psicanalisi comincia a nascere quando entra in crisi il nome del padre. Un'altra cosa che intendevo aggiungere è che questa crisi che avviene nel Novecento, noi già siamo oltre questa crisi, nel postmoderno per l'appunto, è una crisi che investe tutti gli aspetti del soggetto umano. Potremmo parlare non soltanto di crisi della funzione paterna, ma di crisi dei fondamenti. Cioè, questo avviene in tutte le discipline, per esempio nella fisica. Cioè la rivoluzione che avviene nella fisica, insieme alla psicanalisi, tra l'altro contemporaneamente alla psicanalisi, con Einstein e con la fisica quantistica, modifica in maniera rivoluzionaria l'immagine che abbiamo del cosmo, della realtà. Cioè non c'è più un fondamento, cioè viviamo in un universo che non ha più un centro, che non si poggia su nulla, cioè non esiste un fondamento su cui appoggiare la realtà. Viviamo in una visione del mondo e della realtà che è priva di fondamenti. Questo sappiamo che poi avviene in tutte le discipline, pensiamo a quello che avviene nella pittura, improvvisamente c'è il cubismo, c'è l'astrattismo, cioè c'è una rivoluzione proprio nella raffigurazione della realtà. Avviene nella musica, pensiamo alla musica tonale, Schoenberg e compagnia bella, nell'architettura, nella scultura, in tutto. Cioè vengono meno i fondamenti che avevano retto il mondo fino a quel momento. Siamo costretti a vivere in una realtà che è priva di fondamenti. Ora, questa situazione produce angoscia, perché noi abbiamo bisogno di certezze, abbiamo bisogno di poggiare i piedi per terra. Ora sappiamo che questa terra su cui poggiare i piedi non c'è più. Questa angoscia come la si combatte? Ci sono sostanzialmente due tendenze che mi sembra caratterizzino la situazione attuale. Una è quella che è stata ampiamente illustrata adesso, quella di un appiattimento, una situazione indifferenziata, bidimensionale, la rete intesa come una mancanza di differenze, di gerarchie, dove tutto è uguale a tutto. Politicamente si potrebbe dire l'espressione che spesso si sente dire: tanto sono tutti ladri, sono tutti uguali, è inutile votare, per esempio. L'altra modalità di difesa da questo tipo di angoscia è invece un ritorno indietro a cercare dei fondamenti, da cui il fondamentalismo sostanzialmente. E per esempio questo lo vediamo non tanto, non solamente nel fenomeno del terrorismo dell'ISIS che tanto ci spaventa, ma anche in quello che questo ha suscitato in Europa, il ritorno ai nazionalismi. Oggi come oggi, soprattutto nell'est dell'Europa, c'è l'idolizzazione di Putin, cioè l'Europa come unione di patrie sotto l'egida di Putin, il grande padre, cioè si torna a idealizzare un ritorno di un padre, da totem e tabù, potremmo dire, no? Che porta ordine e sicurezza ai cittadini. Ci sono queste due tendenze. Quale altra possibilità esiste oggi perché si possa reintrodurre una, come dire, una dimensione capace di operare differenziazioni, gerarchie, cioè di suscitare il pensiero? Come si può ristabilire un'autorità credibile oggi? Questo è, secondo me, un grande problema a cui è difficile dare una risposta. Una cosa però si può intravedere. Per esempio, io trovo che sia particolarmente interessante notare, oggi c'è stato un avvenimento di grande importanza, di cui parlano tutti i giornali. Tutti i grandi della Terra sono andati dal Papa, c'erano tutti, perché al Papa è stato dato il premio Carlo Magno. Carlo Magno ci riporta al Medioevo, al grande potere, al grande padre che sta a fondamento di tutta la società e così via. Il discorso del Papa è un discorso che rimanda a dei principi etici e tutti i grandi da terra l'hanno ascoltato, però questo Papa di cui tutti parlano sembra rappresentare qualcosa di piuttosto nuovo e rivoluzionario, cioè viene ascoltato da tutti, non dico obbedito, ma non possiamo certo pretendere che la funzione paterna venga obbedita, sarà sempre contrastata, non possiamo pensare di arrivare alla società ideale. Ma quello che caratterizza questo Papa è che non fa mai nessun riferimento alla dottrina, alla teologia, fa solo dei discorsi che sono un richiamo etico, e tra l'altro non generico, quindi abbastanza preciso e pensato. Allora, verrebbe da chiedersi se non sia possibile una rifondazione del simbolo stesso, non cercare nuovi simboli, ma un nuovo modo di concepire il simbolo. Non più come la parola che fonda il simbolo, che introduce le differenze, che introduce il pensiero, è prima di tutto un atto etico, non un atto significante di tipo dottrinale. Ma un atto etico. L'etica, e qui finisco con l'ultimo riferimento a cui tengo particolarmente, perché l'etica introduce l'alterità, il rapporto con l'altro. L'alterità è qualcosa che non è racchiudibile in nessuna dottrina, in nessun dogma, in nessuna teoria. L'alterità lì travalica. L'alterità è la cosa etica, potremmo dire, usando un termine lacaniano. Mi viene da questo punto, a questo momento, da citare Levinas, e soprattutto un titolo di Levinas, altrimenti che essere. Qualcosa che non è l'essere, cioè l'ente, la sostanza, il soggetto, l'oggetto, ma qualcosa che è altro da questo. Questo è il mistero dell'alterità. Io credo che è soltanto andando nella direzione di una riscoperta, di una valorizzazione di questo mistero dell'alterità, non racchiudibile in nessuna dottrina, che sia possibile ritrovare quello che viene chiamato appunto la funzione paterna.
Penso che tu hai delle cose da dire su questo intervento di Levinas.
Et je suis un petit peu désolé parce que le début, je n'ai pas pu suivre, mais après, je vous suis tout à fait sur la fin quand vous amenez la question de l'athétique et de l'altérité. Je pense que, et sur la question des fondements, c'est tout à fait, il me semble que vous le dites autrement, mais on est là, on rejoint les mêmes préoccupations puisque. Alors, j'évoquais le pape là, qui parle d'une certaine façon, et je crois que c'est assez juste. D'ailleurs, tout le monde a été impressionné par les propos qu'il a tenus d'une certaine façon, et je pense que c'est aussi juste qu'on a là à faire une sorte. On voit bien qu'il y a quelque chose qui essaye de trouver sa voie. Et où je vous suis aussi tout à fait, c'est quand vous essayez de dire que ce n'est pas en créant de nouveaux symboles que les gens en créant des nouveaux, mais au contraire, enfin, en affinant ce qui fait l'acte de parole, justement. Et c'est là que vous rejoignez, que je rejoins votre dimension éthique, votre acte éthique. Je vous remercie pour ces propos, parce que je pense qu'ils vont dans le même sens.
Posso porti una questione? Riprendendo la questione dell'etica, no? di cui si stava parlando, e anche della funzione della psicanalisi oggi, e la psicanalisi introduce un'altra etica in questo sociale in cui siamo immersi, e come? Perché lui proponeva la definizione di etica come un rapporto con l'alterità, un rapporto con l'altro, ciò che apre all'altro. Possiamo approvare, diciamo, sostenere questa definizione di etica, o, come dire, la psicanalisi introduce un'altra etica che non... Mi riferisco in particolare al rapporto che l'etica, la psicanalisi può avere con, ad esempio, un'etica che può essere sostenuta, ad esempio, da un'idea di eguaglianza assoluta. Anche questa può rispondere a un principio etico, no? Sostenere la necessità dell'eguaglianza per tutti, che appunto poi è un principio della democrazia che tu hai molto ben lavorato e sviluppato. Allora, com'è che la psicanalisi invece potrebbe sostenere un'etica che non sia appunto appiattita su un'etica puramente dell'uguaglianza, diciamo, ma che appunto sostenga la differenza e la dissimmetria?
Je ne suis pas sûr de... J'ai quelques difficultés avec ça. Bon, désolé. Non, je pense que... Mais l'altérité, par exemple, prenons la question de l'altérité. Je ne sais pas si ça vous frappe ici, mais moi, dans la clinique, je trouve qu'il y a de plus en plus de difficultés à percevoir la question de l'altérité. L'enfant, par exemple, aujourd'hui... Même mes petits-enfants. Je trouve que ce n'est pas simple, la question de l'altérité. On voit bien comment on a touché au fondement là, de ce que c'est que la question de l'altérité. Alors, ramener que l'éthique de l'analyse, oui, bien sûr, c'est son point fort d'insister sur la question de l'altérité. Et l'altérité, ce n'est pas la différence, justement. On entend beaucoup ce terme de égo, mais différent. Voilà, notre ego est différent. Mais l'altérité, c'est... Le problème de l'altérité, au fond, c'est que ça nous dérange. C'est toujours embêtante, je suis poli. Elle est toujours embêtante, l'altérité. Elle vient toujours vous surprendre à un endroit où... Les différences, c'est encore dans le même. Hein. C'est encore métabolisable. Mais l'altérité, c'est vraiment... Bon. Or, pour ça, il faut bien que dans l'histoire de l'enfant... Il y a eu des moments où cette altérité a pu s'inscrire. Sinon, nous retrouvons cet affaiblissement de la question de l'altérité que moi je trouve qu'on constate actuellement cliniquement.
Ci sono delle questioni magari che vengono dalla sala? Qualcuno che vuole intervenire? Perché è chiaro che lui ha trattato delle questioni molto, molto puntuali, al tempo stesso molto ampie, e con un linguaggio che appunto che ha attraversato le sue opere. Quindi, però, possiamo intervenire anche con parole comuni, non necessariamente con le sue.
Una cosa, proprio rispetto a una cosa...
Scusa, puoi venire?
Sì.
Ça va? Non, je me demande si ça va dans les écouteurs. Ça va?
Una domanda brevissima, quindi una richiesta di una precisazione. Quando ha parlato di indebolimento della verità, dicendo che è proprio qualcosa di specifico e anche constatabile clinicamente, volevo chiedere una precisazione, un approfondimento in questo senso. Grazie.
Mais il me semble que ce que l'on voit de plus en plus souvent cliniquement, c'est, pour prendre un exemple tout à fait simple, c'est que l'intervention du père, qui est un peu en panne de savoir quelle est la fonction qu'il doit exactement exercer, se retrouve bien souvent à être, à jouer un peu un rôle de maman double, de mère bis. Et dans ce cas-là, il y a quelque chose de l'altérité qu'il ne soutient plus d'une certaine façon. Mais pour soutenir l'altérité dans la fonction, dans l'intervention de l'autre que la mère, il faut qu'il y ait un pied dans la famille, on pourrait dire, et un autre qui soit inscrit dans le discours social. Mais son inscription dans le discours social, à cause de l'évolution que je vous ai indiquée tout à l'heure, se trouve relativement mise à mal en tant que social et laissée à son libre arbitre en tant que sujet. Mais dans ce cas-là, il se retrouve avec, pour reprendre la famille traditionnelle, avec une femme qui l'a rendue mère, et donc il se retrouve lui-même avec des problèmes avec la mère. Donc on voit bien qu'elle a une difficulté de ne plus avoir cet appui du social, vient parfois rendre caduque la possibilité d'intervenir comme inscrivant l'altérité. D'où, je crois, cette sorte d'affaiblissement de l'altérité qui se manifeste de plusieurs façons. Vous savez, je ne sais pas comment ça se passe ici, par exemple, au niveau de l'école. Quelle est votre sensibilité à ce qui évolue dans une école? Il me semble, quant à moi, que aujourd'hui la famille prend souvent un rôle de protection contre l'école, contre l'exigence, la contrainte qu'impose la scolarité. C'est tout à fait nouveau, parce que du coup, elle n'est plus dans une fonction d'institution, de préparer une institutionnalisation. Mais elle protège plutôt l'enfant d'avoir à intégrer ce que l'école ne peut pas faire autrement que de devoir imposer. Je peux vous raconter à cet égard une petite histoire amusante, mais qui me semble très typique. C'est une maman qui vient avec son enfant de 6 ans proposer, en amenant un grand gâteau. Je ne sais pas si ça se fait ici. Le gâteau, la fête des rois, on appelle ça. Elle explique à l'instituteur que par un heureux hasard, la date de l'anniversaire de son fils coïncide avec le jour de la fête des rois. Et donc elle demande à l'instituteur s'il pouvait faire un effort pour s'arranger de telle façon que son fils ait la fève.
In Francia c'è questa torre dove si taglia a pezzi, diciamo, no? E in una fetta sola c'è questa fava che poi il bambino che lo prende diventa il re o la regina, gli si mette la coroncina, quindi è il vincitore della festa.
Allora, heureusement, l'instituteur d'abord a dit que ça n'était pas possible d'organiser ça en
fait. Organizzare e dare direttamente a.
Mais que de toute façon, il n'acceptait pas ce.
Questa cosa, e che non accettava.
La mère est repartie avec le gâteau. C'est idiot, c'est une petite histoire. Mais c'est bien que la famille voudrait aujourd'hui, souvent, que l'enfant soit traité à l'école comme elle traite son enfant. Son enfant merveilleux, évidemment. Et donc, ça, ce sont des petits mécanismes par lesquels l'altérité, d'une certaine façon, mise à mal, évidemment. Parce que tout le travail de l'altérité, c'est pour les parents de faire en sorte que celle-ci soit petit à petit supportable par l'enfant. Et pas de l'aider à s'immuniser contre l'altérité.
Io vorrei fare due domande attraverso due esempi che cercherò di rendere più semplici possibili. La prima è la fine del ruolo del padre. Beh, qui in Italia è successo un fenomeno che credo illustrativo. Non so se la stessa cosa si possa dire per la Francia o per altri paesi. C'è stato il 68, la contestazione del ruolo del genitore, ma del padre in particolare. Qui in Italia chi è uscito vincitore politicamente da quella stagione sono stati uomini politici come Andreotti, Craxi e poi Berlusconi, persone che la fava sono riuscite a farsela dare. E allora la domanda è, non c'è forse da pensare che una delle forme della decadenza del padre sia stata la perversione, in qualche modo accettata, impersonata? Questa è la prima osservazione. Seconda osservazione, dal punto di vista economico, finanziario, si è visto che la quantità di denaro circolante legato alla finanza in senso stretto, non legato alla produzione, non legato a beni o cose concrete, puro valore finanziario, ha la dimensione, prendiamo questo esempio, del sole. La economia legata alla produzione reale di beni è paragonabile alla terra. Il rapporto è sole-terra. Per dire la verità, quindi, si dovrebbe dire che una percentuale altissima, mettiamo il 99% delle persone al mondo, vive di denaro fittizio. Se per caso domani uno dovesse dire non voglio più i tuoi soldi, voglio che tu mi dai in cambio dei beni corrispondenti, 99 persone non potrebbero rispondere a questa domanda. Allora ho l'impressione che il problema dell'alterità e dell'etica, io sono abbastanza inquietato da questo punto di vista, perché la verità che ci si dovrebbe dire ha caratteristiche di questo tipo. Per la società che si è sviluppata. Dovremmo dirci 99 volte su 100 che viviamo di illusione. Sono tanti esempi che vogliono incorporare la domanda corrispondente. Grazie.
La première, c'est sur la perversion, finalement.
Abbiamo parlato di perversione all'inizio, quindi possiamo dire che c'è una domanda su quello.
Oui, je crois que le titre d'un de mes livres en français, c'est La perversion ordinaire. Ce n'est pas une véritable perversion, la perversion ordinaire. Bien que les figures que vous développez peuvent plutôt aller de ce côté-là, évidemment. Mais je pense que nous avons produit ou nous produisons un ensemble de sujets qui sont plutôt invités à une perversion ordinaire, c'est-à-dire à une possibilité de pouvoir continuer à penser à ce que tout soit possible, et donc évidemment, bon, on n'est pas vraiment dans la perversion, parce que la vraie perversion, c'est le sujet qui a fait de ça sa subjectivité. Mais ici, nous avons une manière de... Mais tout à l'heure, M. Pellizzari là évoquait le fait que le père avait servi aussi à donner une série de fondements, justement. C'est ça avec lequel nous sommes en difficulté. Au fond, nous avons cru, et d'une certaine manière, à juste titre, que le modèle paternel avait fait bouchon à quelque chose. Ce qui est vrai, le modèle patriarcal a empêché, entre autres, la révolution du féminin, on peut dire comme ça. Donc c'est vrai. Mais en même temps, il donnait des assises dont précisément nous n'avons plus aujourd'hui. C'est là qu'il y a une difficulté qu'il faudra arriver à distinguer ce qui relève de cette fonction du principe paternel, comme on l'appelle, qui lui est nécessaire pour qu'il y ait des fondements, mais que nous puissions tolérer et supporter que l'organisation avec la clé de voûte du patriarcat ne soit plus celle qui soit à la hauteur de notre monde d'aujourd'hui. La deuxième question, je n'ai pas bien reçu.
La seconde main, non l'ho capita molto bene. Que le monde de la finance, oui, peut être comparé au soleil, et le monde réel, de la production réelle, l'économie, oui, réelle, oui, c'est quelque chose que nous n'avons plus pratiquement idée, que 98% de notre vie relève de la finance et pas, oui, du réel. Alors, si on demande aux gens maintenant, effectivement, quelque chose de réel, on n'a rien à donner puisqu'il n'y a plus. Si j'ai bien compris, moi, excusez-moi, je me suis permise d'interpréter.
Non, merci beaucoup. Oui, je crois que je n'ai pas évoqué ça, mais quand j'évoque le discours du capitalisme, il faudrait faire une précision que c'est vraiment le capitalisme financiarisé.
Parliamo di capitalismo finanziarizzato.
Le problème aujourd'hui, c'est ça. C'est la dictature de l'actionnariat. C'est-à-dire qu'au fond, les modalités concrètes sur lesquelles nous pourrions avoir prise, elles nous échappent. Je crois qu'il y a aujourd'hui 19 ou 20, maximum une vingtaine de banques mondiales qui possèdent l'entièreté, qui est l'équivalent de l'entièreté de tout le produit national brut de tous les pays réunis. Donc elles sont devenues plus fortes que les mécanismes eux-mêmes. Et on voit bien aussi qu'il se passe pour moi quelque chose d'équivalent entre ce que je crois qu'il se passe entre les enfants et les parents aujourd'hui, qui n'est plus de la contestation. Comme on disait hier, l'enfant conteste les parents. Qui d'entre nous ici n'a pas fait ce type d'exercice? C'est logique. Mais aujourd'hui, je ne crois pas que c'est comme ça que ça marche. En tout cas, pas pour les enfants qui sont spécifiquement emportés par le monde dans lequel nous sommes.
attirati da questo
verbo. Ils sont plutôt en position de ce que j'appelle récusé, le baron.
Questa posizione récusatoria.
Dans le terme de droit, quand vous récusez quelqu'un, ça veut dire que vous pouvez refuser que telle personne soit dans un jury, par exemple. Bon. Parce que vous savez qu'elle a des liens. L'enfant aujourd'hui, il se situe un peu comme. Mais tu n'as rien à dire. Et qu'est-ce qui lui permet de faire ça? Eh bien, je pense que l'enfant est très sensible au discours sociétal. Si celui-ci forçoit la castration, il est tout à fait autorisé à récuser cette castration dont lui témoignent ses parents. Mais ça n'est pas contesté. Parce que quand vous contestez, vous reconnaissez l'autre à sa place et vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit. Quand vous récusez, vous annulez l'autre. C'est comme ça d'ailleurs qu'il se constitue une immunité contre l'altérité, parce qu'il a le droit de récuser. Or aujourd'hui, je repasse au niveau de la société, le fait qu'il y ait un monde mondialisé permet de récuser ce que la nation impose. Et c'est ça qui est très compliqué. C'est que si aujourd'hui, en Italie, on décide ça, moi je dis je viens de Belgique, chez nous, non, non, et autrement. Et donc, du coup, je peux tout à fait me dire, mais non, je peux profiter de ce qu'il y ait cette mondialisation pour échapper à devoir me confronter à l'autre. Donc, je pense que vous avez raison. L'économie financiarisée vient vraiment enlever la possibilité de riposter.
Ma volevo chiedere, parlando di adolescenti, gli adolescenti sono oggi molto studiati e molto considerati rispetto ad un tempo, forse per i motivi che tu hai elencato. Una volta gli adolescenti erano considerati pochissimo anche dalla psicanalisi. Oggi invece sono un oggetto privilegiato, proprio perché gli adolescenti vivono fisiologicamente una crisi che è analoga a quella che sta vivendo la società oggi. Cioè perdono i referenti, perdono la protezione edipica dell'infanzia e quindi devono passare attraverso una situazione, devono diventare orfani, devono in qualche modo uccidere simbolicamente i genitori dell'infanzia e questo porta ad una situazione di vuoto e di solitudine che devono attraversare. È anche quello che stiamo vivendo oggi tutti quanti noi. Quindi la crisi adolescenziale diventa il modello della crisi che sta vivendo la società, che ha perso i suoi garanti tradizionali, cioè le grandi religioni, i grandi fondamenti di un tempo, e si trova a essere sospesa nel vuoto in una condizione di grande solitudine. Ora, gli adolescenti di oggi, cioè il disagio diffuso è abbastanza particolare, è un disagio ovviamente narcisistico, ma del resto lo è sempre stato nell'adolescenza, ma qual è il dramma degli adolescenti? Non so cosa mi piace, non so cosa voglio fare, non c'è niente che mi interessa davvero. Cioè c'è una diffusione di una depressione sotterranea negli adolescenti. Non sono adolescenti arrabbiati che vogliono cambiare le cose, che vogliono scontrarsi, sono adolescenti infelici che sono segretamente depressi, anche se nel loro comportamento possono essere
clamorosi, nelle dipendenze, possono anche spaccare oggetti, picchiare, scontrarsi, ma dietro questo comportamento quello che emerge è una situazione di grande depressione diffusa tra gli adolescenti. Volevo chiedere se anche nella tua esperienza c'è qualcosa del genere.
Mais oui, absolument. Je trouve d'ailleurs que le terme que vous utilisez de dépression souterraine diffuse pourrait vraiment correspondre à ce temps où il s'agit de prendre en compte que l'objet est perdu, est fondamentalement perdu, et que la multiplicité des objets qui sont offerts dans le discours du capitalisme viennent presque masquer complètement le travail d'objet perdu que le jeune doit faire. Parce que passer de l'adolescence, de l'enfance à l'adulte, comme vous venez de le dire, c'est inscrire ça. Mais la jouissance ambiante vient lui rendre ça beaucoup plus difficile, vient pas fort aider les parents à supporter là non plus. Donc je pense que mettre le doigt sur ce côté dépression et sur le fait que l'adolescent éponge le sociétal aujourd'hui, je crois que c'est tout à fait juste.
Mi viene in mente che lavorando con gli adolescenti, quello che spesso li aiuta, per quello che ho potuto constatare, non è la sdrammatizzazione di quello che stanno vivendo. In fondo non è niente, è l'età, ma vedrai, passerà. Ma è il contrario, è la drammatizzazione. Riconoscere a un adolescente che sta vivendo un dramma è qualcosa che lo aiuta. Mi sto chiedendo se questo non sia anche un modello per quanto riguarda la società. In genere i discorsi che fanno i politici sono rassicuranti. In fondo le banche sono sotto controllo. Stiamo uscendo dalla crisi, troveremo un accordo, abbiamo fiducia nella giustizia, eccetera, eccetera, eccetera. Mi sto chiedendo se non potrebbe essere più efficace un discorso di qualcuno che abbia il coraggio di dire: ci troviamo in una crisi difficilissima, non so se ce la faremo. Cioè, come apertura di credito, come apertura di quel tour di cui tu parlavi.
Nous espérons tous dans ce sens-là, le discours de Churchill. Hein. Les nazis sont terriblement puissants, ils sont extrêmement dangereux, nous allons gagner, mais ça va nous coûter très cher. Et il faut l'assumer. Mais croyez-vous qu'il y a un politicien aujourd'hui qui sera réélu si dit ça? Vous voyez la phrase dans laquelle on se trouve? Je crois que vous avez raison. On aurait besoin d'un discours comme celui-là, qui nous va dire que nous sommes en crise, nous sommes en grande difficulté, mais si nous nous y mettons, nous allons savoir faire face. Il n'y a pas de raison que nous ne sachions pas faire face. Mais ce n'est pas tout à fait les rendions du politique.
Ma è la scommessa da fare, perché è un po' come i pubblicitari, no? Perché loro dicono dobbiamo fare qualcosa che piace al pubblico e non si capisce più se sono loro che sono influenzati dal pubblico o sono loro a influenzare il pubblico. Cioè il politico dice non posso fare dei discorsi veri se non mi eleggono, e allora succede che questo diventa un circolo vizioso da cui non si esce. Può anche darsi che un politico che invece decida di fare un discorso vero venga eletto. Se perdiamo questa speranza, siamo perduti.
No, mi sembrava che comunque questa questione degli adolescenti diventasse abbastanza cruciale, perché in fondo sono un po' i testimoni, no, di questa mutazione, così come tu l'hai chiamata nei tuoi testi di cui parli. E mi veniva in mente che qualche giorno fa ho assistito a una conferenza di Instagram, che è venuto il Capo in Casa della Cultura, e che Lebrun ben conosce, che invece faceva l'esempio di un altro tipo di adolescenti, che di un fenomeno che è soprattutto presente in Giappone, mi sembra che siamo di Akiko Mori, sui quali è stato fatto anche un film in Francia che si chiama Derrière la porte, ma pare anche un altro di cui l'arrivo. Beh, insomma, in cui questi adolescenti appunto si rifugiano nelle loro stanze, non escono più e fa fatica a entrare in contatto con loro. E naturalmente degli Comori abbiamo degli esempi anche da noi, perché ci sono altre forme di autosegregazione, no? E di rifiuto dell'esterno, di cui abbiamo esperienza. E quello che mi colpiva è che in questo caso l'analista di cui parlo appunto aveva dato un'interpretazione di questo atteggiamento non tanto come un atteggiamento depressivo, ma come un atteggiamento piuttosto isterico. Cioè la sua tesi era che gli achicomori o i loro equivalenti, con questo rifiuto diciamo di entrare in contatto con l'esterno, con questa autosegregazione che sembrerebbe una fobia, in realtà erano una forma moderna di isteria. Allora, questo è un po' che cosa ne pensi di questa lettura, di questo fenomeno sociale che appunto in Giappone è così radicale, ma di cui abbiamo, io conosco dei ragazzi ad esempio che stanno molto tempo dentro casa, addirittura nella loro stanza, e che passano il loro tempo non solo attaccati a internet, ma facendo travestimenti, strani giochi di interpretazioni di personaggi celebri con cui si identificano, ma tutto dentro la loro stanza.
Oui, j'ai vu le film sur les Hikikomori, là. Mais ça, c'est autre chose, c'est pas cela.
Derrière la porte? Non, c'est pas sur les Hikikomori, c'est une histoire. Oui, parce que les Hikikomori, c'est vraiment une fermeture. Oui. On ne sait pas ce qu'ils font derrière la porte, d'ailleurs.
Est-ce que c'est une forme contemporaine de l'hystérie? Ça pourrait se discuter, oui. Oui, je ne sais pas. Moi, j'ai difficile à utiliser les catégories anciennes que nous connaissons pour venir les mettre sur les phénomènes actuels. Ça m'embarrasse un peu, mais je ne suis pas opposé à réfléchir à ça. Mais je suis un petit peu intrigué parce qu'on peut dire ça du burn-out, par exemple. Est-ce que le burn-out déprime quelque chose? Il me semble que ce n'est pas pour rien que l'on utilise des nouveaux mots pour tout ça. Je ne suis pas sûr que ça soit complètement reprenable dans les discours anciens. Mais je trouve que c'est des sujets de travaux, ça, des sujets de travail, à discuter, à échanger. Par contre, ce qui m'avait fort frappé dans ce film, sur de l'autre côté de la porte que tu viens d'évoquer, c'est la façon d'intervenir les éducateurs. C'est assez typique d'ailleurs, ce sont des jeunes qui se renferment complètement dans leur chambre, ne veulent pouvoir plus rien. Le père n'a pas l'air de pouvoir s'occuper de ça, il est dépassé. Lui. Et puis il dit qu'il n'aura pas. C'est la mère qui prend toute la difficulté à sa charge. Et c'est très intéressant la façon dont l'éducateur auquel elle fait appel, petit à petit, intervient comme ça. C'est toute une question sur le transfert, le maniement du transfert avec les jeunes comme ça, qu'est-ce qui est l'enjeu.
C'est un bus de langue.
Questioni, domande dal fondo? Vedo degli analisti che si occupano di bambini qua. Lo stai da prezzo?
Buonasera.
Volevo
chiedere se questo discorso che lei ha fatto sulla crisi dell'umanizzazione, lei lo lega anche ad una nuova modalità del materno, ad un nuovo modalità di maternella. Perché l'aneddoto che lei ha raccontato della torta dei Re Magi, perché l'aneddoto che lei ha raccontato della torta dei Re Magi sembrerebbe qualcosa che forse tra le madri potrebbe essere ritenuto assolutamente legittimo. E dunque mi chiedevo se in questa crisi di umanizzazione, che ruolo lei dava in questa crisi di umanizzazione a questa nuova diciamo, modalità della funzione materna e della prevalenza della famiglia sulle istituzioni.
Alors, merci pour cette question parce qu'elle va faire l'objet de la journée de demain. Pour le dire rapidement, personnellement, je pense que nous avons de plus en plus affaire à une clinique de l'enfant portée par un désir seulement maternel. Et donc, c'est d'autant plus important que dans ce moment de mutation, de changement, nous repérions bien que la fonction symbolique n'est pas que liée au père, mais que la mère la porte très tôt dans l'existence pour l'enfant. Et donc je pense que nous avons à étudier le mieux que nous pouvons les caractéristiques de cet amour maternel qui n'est pas mortifère, qui n'est pas destructeur, mais qui au contraire introduit à l'absence. Bon. Et parce que d'abord il faut l'expliciter, ça se fait très tôt, très vite. Disons. Et là où Freud nous avait montré que le lien à la mère était opaque, comme il disait, blanchi par les ans, qu'on ne savait pas très bien ce que c'était, ce que ça laissait comme trace dans l'appareil psychique. Nous pouvons profiter de la situation d'aujourd'hui pour mieux élucider comment est-ce que même si elle n'est que seule interlocutrice de son enfant, elle peut tout à fait introduire l'élément tiers. Donc c'est ça que nous avons étudié. Je pense que là-dessus, on retombe sur la question de la dépression, parce que probablement que c'est à elle à faire le travail de supportabilité de l'absence de l'objet, et comment c'est elle-même qui va anticiper en quelque sorte ce travail de ce que l'enfant devra faire. Donc je serai d'autant plus aujourd'hui vigilant à ce qu'il en est du travail de ce que fait la mère, qui en plus de ça, bien souvent, a les deux rôles, comme elle le dit souvent aujourd'hui. En cas de famille monoparentale, elle dit « c'est moi qui dois faire les deux rôles ».
Posso aggiungere una cosa? Abbiamo un precedente illustre come modello che è Maria. In fondo la sua era una famiglia monoparentale. In fondo Giuseppe scompare subito. E quello che tu dici mi fa venire in mente le varie natività o maternità rinascimentale. perché una delle caratteristiche che hanno è che lo sguardo di Maria che tiene in braccio il bambino molto raramente guarda il bambino, non guarda il bambino, guarda altrove, l'aiuto della mère. E questo si dice guarda il padre, non è vero che guarda il padre, anche perché il padre di questo bambino è Dio, per cui come in un certo senso si può dire che guarda lui, no? Ma nel senso che guarda questo altrove misterioso, che è la pensabilità della vita, che è il dramma della vita. Infatti è sempre uno sguardo triste, non è uno sguardo letrano in alcuni, ma nei modelli classici è uno sguardo pensoso. Sono presenti sempre anche i simboli della passione. L'agnello, cioè Lorenzo Lotto, cioè il bambino che gioca con le orecchie dell'agnello, è molto carino, però l'agnello è il simbolo della passione, della morte. La madre nel momento in cui dà la vita dà anche la morte. Allora è proprio la testimonianza di questa pensosità che è relativa al generare, al mettere al mondo, che già contiene tutto il mistero dell'altro, di cui il padre sarà testimone, ma non è lui come oggetto.
Bene, je vous remercie beaucoup pour cette observation des Madones. Je suis tout à fait dans le même constat que vous. C'est que ça m'a frappé. Il y a très peu de visages, enfin, il y a beaucoup de pères et d'enfants, mais très très peu où la mère regarde directement l'enfant. C'est très rare. Ou même qu'elle le touche, c'est très rare. Il y a même une statue sur laquelle je suis tombé, qui va sans doute servir de faute de couverture à mon prochain livre, où c'est une statue gothique qui se trouve à Toulouse, et où l'enfant regarde d'un côté et la mère carrément de l'autre côté. Et dans le visage de la mère, il y a autant dans le visage de l'enfant, il y a une sorte déjà de gentil, au fond. Et dans le visage de la mère, c'est une très grande mélancolie, très grande tristesse. Ça me semble être une bonne représentation de ce qu'a été longtemps la mère, même si le père n'était que Saint-Joseph. Oui. Par contre, je suis tombé il y a quelques semaines au musée de La Haye, sur une statue de Louise Bourgeois. Vous voyez la mère, les grandes araignées. Les grandes araignées de Louise Bourgeois. Je ne savais pas qu'elle en avait fait une, où il y avait deux araignées entremêlées, une un peu plus grande et une plus petite, complètement entremêlées, et elle l'avait appelée mère et fille. Voilà l'opposition entre la modernité.
Questa è la posizione di la modernità. Ah, beh, questa è stata l'idea. Oui. Bene. Devo dire, stimolo e riflessione francamente ad infinito questa sera. Soluzioni molto più problematiche, come è giusto che sia, forse questo è il bello di un incontro come questo, che ci dà tanti motivi per pensare, riflettere ulteriormente, e di questo voglio ringraziare tantissimo Gian Piero. Continueremo allora. Grazie.
Il y a cette école, ça se fait.